Portrait à présent, portrait de héros ordinaire des vies françaises, la vie ce matin de Nathalie Georges. C'est une femme dite de la haute société que le destin a conduit dans une chambre de bonne. Charlotte Perry l'a rencontrée.
Mozart a fini fauché, enfin, il n'y a pas de honte d'avoir eu de l'argent et a pu en avoir.
Nathalie Georges.
Et que avec des patates, avec une bonne saucisse de Morteau, c'est aussi bon que du homard à l'américaine.
La reine des sous-toits.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci de descendre son
nom. Vous êtes obligé de descendre à chaque fois que quelqu'un vient vous voir.
Écoutez, on est au sixième. Les chambres de bonne ne sont pas reliées à l'interphone. Juste les étages nobles.
Je vous laisse.
C'est excellent pour le fessier et les mollets.
On vous précède. Alors, vous voyez, c'est notre escalier, c'est parti. Une halte pour les toilettes.
Ah, les toilettes sont
à mi-étage, oui. Voilà, avec un peu de Chanel, parce que c'est pas parce qu'on est au sixième qu'on n'a pas le droit d'avoir du Chanel dans les toilettes.
Hein? Ça, c'est vos toilettes, à vous.
À tout le monde. C'est commun. Aux six personnes qui habitent là. Moi, je suis en charge du papier cul. C'est pour ça qu'il y a du stock. Bon, maintenant, le fameux couloir.
Il y a des tomes de livres d'art.
Catalogue d'exposition, livres d'art. Divers et variés, des plateaux, enfin voilà. Un petit meuble cuisine. Et puis comme mon frigidaire m'a lâché il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas eu envie de reprendre un frigidaire d'hôtel, et ben voilà, il y a un petit frigo.
Vous avez investi le couloir, quoi.
Non, mais c'est désagréable. Après, j'ai avoir des problèmes avec tout le monde, avec vous. Une partie. Discrètement, s'il vous plaît. Bon, je vous enlève alors, Johann Sébastien, c'est là où je dors.
Donc vous avez deux appartements, finalement.
Deux chambres, de 6 mètres carrés 50. C'est d'un luxe infini.
Mais qui ne communiquent pas entre elles.
Non, mais ça c'est volontaire parce que ça permet de mieux séparer les territoires et qu'il y en ait une qui soit un peu comme une loge de théâtre. On s'allonge pour se reposer et le matin on met ses costumes, alors suivant ce qu'on va faire. Vous savez, 10 ans dans la couture, ça esquinte. Vous voyez ? Donc voilà, ça laisse des traces, mais au moins, ben, la garde-robe a 30 ans, 40 ans. Et donc l'autre chambre est une chambre dans laquelle je peux travailler. Et nous avons nos dîners du 6e étage.
Dans celle-ci, celle qui est le bureau.
Ah ben oui, là où il y a la grande table.
Qui prend le 3/4 de la pièce.
Ah ben oui, mais c'est ça. À un moment, l'espace, on ne peut pas l'inventer, quoi. On n'en a pas, c'est comme ça.
Je laisse entrebâiller.
Oui, on va toujours. Les portes sont toujours ouvertes. Et on a bien arrêté Jean-Sébastien. On arrête le ventilo.
Donc nous sommes dans vos appartements, sous les toits de Paris, avec une vue sur le haut de la Tour Eiffel et sur le toit en zinc. Alors chez vous, c'est petit, mais néanmoins, il y a une très grande bibliothèque qui couvre tout un pan du mur avec de nombreux ouvrages d'art. On sent finalement que si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'avez pas toujours vécu dans les appartements qu'on appelait autrefois ceux des domestiques, même si aujourd'hui c'est plutôt ceux des étudiants. Et vous êtes issu d'un milieu social, plutôt privilégié culturellement et socialement.
Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai été chez mes grands-parents, rue de Sfax, un tout petit bout de rue coincé entre la place Victor Hugo et l'avenue Foch, dans une bourgeoisie française aisée. Très aisé, où on recevait beaucoup. Mon père était architecte et peintre, et ma mère a créé tout au début des années 50 le premier prêt-à-porter de luxe. Et alors tout de suite après avoir passé mon baccalauréat, je suis rentrée chez Tristan Bior, comme la Castafiore, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et ça a été une très belle époque, puisqu'il y avait encore à ce moment-là des femmes très élégantes. Et que les femmes s'habillaient encore beaucoup. Et donc, le destin, la chance, on va dire, m'a fait rencontrer la famille Bouillet, qui à ce moment-là était propriétaire de Christophe. Et donc, j'ai été engagée par Christophe.
Les arts de la table.
Les arts de la table, voilà. Porcelaine, cristal. Et après, j'ai continué à m'occuper des collections pour Christophe jusqu'à la fin des années 80.
Mmh.
Hop, je reprends ma place, derrière l'autre.
Hop. Et par la suite, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué?
Alors, au milieu des années 80, je suis devenue indépendante. Je me suis mis à mon compte, comme on dit. Et j'ai commencé à travailler avec la Réunion des musées nationaux. Grâce à l'ARMN, j'ai commencé à travailler à l'étranger, avec le Japon, avec la Corée. J'ai travaillé en Angleterre aussi. Il y a eu le concours aussi pour la Wallace Collection de Londres. Enfin, il y a eu beaucoup de projets absolument passionnants qui m'ont fait voyager. Je ne me suis jamais mariée. J'ai pas eu d'enfant. Je me suis entièrement consacrée à mon travail et à la richesse des rencontres que je pouvais faire au travers de ce travail.
Mais alors, comment vous vous êtes retrouvée dans cet espace du sixième étage?
Vous savez, la vie est parfois imprévisible. Donc j'ai continué à beaucoup travailler. Simplement, il y a eu probablement eu une erreur de choix dans la structure juridique que j'avais créé au départ, sachant que les sociétés unipersonnelles n'existaient pas. Donc ça a créé un certain nombre de problèmes administratifs qui ont rendu le quotidien difficile au point de ne plus être maîtrisable.
Donc vous, ce qui s'est passé, c'est que vous avez le fisc vous est tombé dessus. Pour vous, quand est-ce que c'est devenu justement plus maîtrisable?
Ce n'est plus devenu maîtrisable à partir de, on va dire, 2005 à peu près. Ça fait 15 ans que je suis donc au sixième étage. Et je n'aurais jamais imaginé au départ d'abord avoir la vie du sixième étage. Enfin, je n'avais pas connaissance, enfin, j'étais à des années-lumière de la vie du sixième étage. Je me souviens, c'était dans l'espèce de petite maison très mocharde que j'habitais encore. Je regarde le soir en coucher, je regarde le tapis. Je dis, mais attends, là, il va falloir que je vive dans un espace qui est plus petit que le tapis. Donc sur le tapis, vous vous dites, il va falloir dormir, s'habiller, manger, travailler, cuisiner. Vous voyez, ça peut donner le vertige. Et maintenant, 15 ans après, de 6,50 m, qui sont après agrandis, multipliés par deux, parce qu'au début j'en ai eu qu'une, mais après j'ai une deuxième chambre de 6,50 m, c'est carrément d'un luxe infini. Eh bien, quand je regarde ces 15 dernières années, je suis extrêmement contente de les avoir vécues, parce qu'elles m'ont forcée à aller à l'essentiel, elles m'ont obligée à considérer les choses autrement, y compris la cuisine. Et puis ça oblige à être imaginatif, ça oblige à voir les choses autrement. Et comme on le dit, c'est comme au 18e, les pièces changent de destination parce que c'est le 19e qui a tout figé en une salle à manger et un salon. Mais à l'époque, la table du roi changeait de place tous les jours. Donc nous, eh bien, les piles de papier migrent dans le couloir et nous dressons la table sur la table du bureau. Et croyez-moi, on passe des soirées formidables au sixième étage. Donc après, là où les choses par moments se compliquent, c'est lorsque vous avez besoin de faire des manipulations et que tout d'un coup, l'espace vient vous manquer, parce que vous n'avez pas rangé tout de suite, immédiatement, à la seconde. Et quand, à ce moment-là, la brosse à dents est à côté de la gamelle du chat, qui est à côté de l'ordinateur, à côté du classeur de la compta, à côté de là, merci à la Dame de Fer et merci à Jean-Sébastien Bach, parce que quand les territoires se chevauchent trop, c'est très, 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 très facile de glisser et de déraper.
Vous faites quoi quand vous sentez que des fois vous pourrez glisser?
Généralement, je commence par bien manger et boire un coup de rouge. Et en me disant, après, on verra. Et un écrasé de pommes de terre avec des sardines ou avec un filet de merlan, c'est aussi bon que du foie gras ou du homard à l'armoricaine. Le chat commence à avoir faim. Je suis désolée si vous entendez les miaulements, mais c'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça, la vie de Nathalie, reportage de Charlotte Péry.